Bonjour David, bonjour à tous. Les agents des routes du département mobilisés en nombre ces dernières heures. La tempête qui a traversé les Deux-Sèvres cette nuit n'a pas été sans conséquence. Le conseil départemental prête à investir 10 millions d'euros pour faire avancer le dossier de la sécurisation de la RN 149. Le moisson d'appât a débuté hier comme chaque 1er novembre. L'accompagnement est un facteur essentiel pour tous ceux qui cherchent à arrêter. Les cimetières sont très visités comme d'habitude à la Toussaint. Des cimetières qui doivent maintenant se passer des produits phytosanitaires. Et puis la 9e édition de l'étrange week-end datoire très fréquenté. Mardi dernier par exemple, près de 1500 personnes se sont présentées à l'orangerie du château pour la soirée spéciale Halloween. Quant à la météo, le temps restera mitigé cet après-midi. Les pompiers de Sévrien ont reçu 145 appels entre 19h et 7h ce matin, suite au passage de la tempête Karan. 47 demandes de secours ont été enregistrées pour 9 interventions. Cela concernait des infiltrations d'eau, des câbles électriques ou télécoms tombés sur la voie publique en raison des bourrasques de vent, mais aussi pour des chutes d'arbres. Les routes, justement, sont bien entendu sous surveillance. Les équipes d'astreinte du conseil départemental ont été renforcées pour parer à l'urgence. Joël Joly, le directeur des routes au département des Deux-Sèvres.
Ça circule globalement sur le réseau routier. Nos équipes sont intervenues dès hier soir vers 22h lorsque le vent est monté en puissance. On a réalisé à peu près une cinquantaine d'interventions sur les routes départementales pour enlever des arbres ou des branches. Mais je dirais que la situation est sous contrôle. Nos équipes vont faire du patrouillage sur le terrain de façon à vérifier que les usagers peuvent se déplacer en sécurité. Alors tout le département était plus ou moins touché par des vents de l'ordre de 90 km/h et associés à des pluviométries de l'ordre de 20 mm. Principalement, nos interventions étaient concentrées sur la moitié nord du département, sur les secteurs de Mauléon, Bressuire, Parthenay et aussi Mazières-en-Gâtine. Et on commence déjà à regarder les prévisions pour samedi qui annoncent effectivement un nouveau coup de vent.
Un nouveau coup de vent en effet en fin de semaine et week-end à venir avec des rafales annoncées aux alentours de 75 à 80 km par heure. Fort heureusement, aucune victime en Deux-Sèvres n'est à déplorer en lien avec cet événement climatique la nuit passée. Grosse frayeur en revanche pour une jeune Hervaudaise d'une vingtaine d'années ce matin vers 6h alors que cette dernière circulait sur la départementale 178 pour prendre son travail au au centre hospitalier de Saumur à Saint-Just-sur-Dive. Un impressionnant chêne s'est abattu sur la route, endommageant totalement l'avant de sa voiture. La jeune conductrice en est sortie indemne. Cet axe routier a été fermé à la circulation pendant près de 4 heures. La nuit dernière, un arbre d'une vingtaine de mètres s'est abattu sur le réfectoire du collège Albert Camus de Frontenay-Rouen. Élu, notamment du conseil départemental et gendarmes, a été sur place ce matin pour évaluer les dégâts sur la toiture et suite aux infiltrations d'eau. La Sèvre nantaise a été placée ce matin en vigilance jaune pour crue possible sur la partie amont dès ce milieu de journée, annonce la préfecture des Deux-Sèvres. Les agents d'Enedis également mobilisés à 7h ce 2 novembre ont dénombré environ 8000 clients privés d'électricité dans l'ancienne région Poitou-Charentes, dont 6000 foyers en Charente-Maritime, 2000 en Charente et 50 en Deux-Sèvres. La Vendée a connu la nuit dernière des rafales de vent entre 110 et 120 km/h qui ont entraîné de nombreux dégâts et incidents sur les routes départementales. Les sapeurs-pompiers du département ont reçu 632 appels entre 20h et 5h30 ce matin pour un total de 229 interventions en lien avec la tempête. Un arbre, par exemple, est tombé sur une maison à Chantonnay entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Le chiffre du jour, 10, c'est en millions le montant que le département des Deux-Sèvres compte mettre sur la table pour financer des travaux pour l'aménagement de la RN 149. On se souvient que faute d'entente entre l'État et la collectivité départementale, l'année 2022 s'était soldée par un arrêt du projet de transfert de la route nationale. À la veille de la clôture du volet mobilité du contrat de plan État-Région, c'est à Chiché, commune traversée par près de 10 000 véhicules au quotidien, que la présidente du département a fait cette annonce.
10 millions d'euros pour engager les hôtes justement à activer ce dossier parce que c'est avec l'État qui est propriétaire de la route, avec la région, avec les intercos, c'est bien parce que nous serons partenaires que nous parviendrons à faire aboutir ce dossier tant attendu dans le nord du département. On met 10 millions sur la table parce que c'est une nécessité pour nos territoires ruraux et pour nos entreprises. Moi, si on me dit ça vous fait plaisir d'investir chez quelqu'un d'autre, eh bien, sur la RN 149, je vais vous dire oui.
Vous étiez quitté sur un désaccord avec l'État. Qu'est-ce qui fait que là, vous pensez convaincre ?
Parce que l'État ne peut pas être sourd. Il ne peut pas être sourd au sentiment d'abandon qu'a la population. Donc, quand on met 10 millions d'euros, on les met, quoi. Ce n'est pas une parole en l'air. Et je crois que l'État ne peut pas être insensible à l'effort qu'on fait d'investir sur son patrimoine. On vous emmène de l'argent pour faire avancer notre dossier. S'il vous plaît, faites avancer le dossier.
Coralie Desnoux, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. Avec cette annonce du département, le maire de Chiché espère enfin voir avancer ce dossier. François-Marie, également au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Comme tous les élus concernés, je pense qu'on va être heureux de cette annonce qui, je l'espère, fera avancer enfin ce dossier qui date depuis plus de 70 ans, qui nous génère bien du tracas au quotidien puisque, comme vous le savez, nous avons un grand nombre de morts sur cette route entre Bressuire et Poitiers, et puis plus généralement, la route aujourd'hui n'est absolument plus adaptée à son niveau de trafic, qu'il soit au niveau des voitures, mais particulièrement au niveau des camions. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 camions jour, seulement 200 camions la nuit, donc vous imaginez ce que ça veut dire le jour. Et puis, évidemment, l'accidentologie, elle est liée au trafic que la route ne peut pas encaisser, ce qui fait qu'il y a des énervements forcément contraints qu'on peut imaginer et qui aboutissent à des drames. Et donc, soyons intelligents, trouvons ensemble une solution pour aboutir enfin à des travaux réels avec des voies pour doubler de part et d'autre en premier lieu et puis des contournements quand ça sera possible.
10 millions d'euros pour sécuriser la RN 149. Ce montant sera inscrit au budget 2024 du département des Deux-Sèvres. Le mois sans tabac a débuté ce 1er novembre comme chaque année. En France, le tabac reste la première cause évitable de mortalité. L'arrêt du tabac est donc un enjeu majeur de santé publique. Et après 30 jours sans fumer, les symptômes du manque s'estompent et les chances d'un arrêt définitif sont multipliées par 5. C'est pourquoi le mois sans tabac est prévu durant tout ce mois de novembre. Désormais incontournable, cette opération offre aux fumeurs un accompagnement par des professionnels, à l'image de Nadège Billy et Benoît Chevalier, tous deux infirmiers dans le Bocage, membres de l'association Azalé, comprenez Action de Santé Libérale en équipe.
Le mois sans tabac, c'est une initiative de santé publique nationale qui existe depuis plusieurs années, auquel l'association Azalé prend part en organisant des consultations auprès de personnes qui souhaiteraient arrêter la cigarette.
Alors cette année, il va y avoir toujours des consultations qui seront ouvertes à tout public, c'est-à-dire que les personnes peuvent se rendre dans leurs cabinets médicaux et prendre un rendez-vous avec l'infirmier ou le médecin généraliste pour parler de sa consommation de tabac.
Donc effectivement, oui, on va avoir plus de patients pour du sevrage tabac et de l'accompagnement.
Ce que j'explique en général aux patients, c'est que le tabac, il rentre dans la vie pas par hasard et qu'il y a un fonctionnement qui s'installe tout autour au niveau de la gestion des émotions, au niveau des habitudes de vie. Et c'est là où l'accompagnement soignant est important parce qu'on va déjà repérer quelles sont les émotions qui sont en lien avec notre consommation, quelles sont les habitudes de vie, quels sont l'impact du tabac dans notre quotidien. Et puis après, bien sûr, pour le confort, on peut prescrire des substituts qui seront adaptés.
Depuis sa création en 2016, plus d'un million de Français ont déjà participé à ce mois sans tabac. Isabelle, par exemple, la soixantaine, s'est arrêtée de fumer il y a quasiment un an. Elle qui avait commencé à l'adolescence pour faire comme les copains et les copines.
Au début, très peu. Hein, j'avais pas beaucoup d'argent, donc c'était quelques cigarettes. Et plus dans le temps, on fume de plus en plus.
C'est-à-dire ?
Ça passait un paquet, deux paquets, trois paquets, et puis voilà, hein, c'est un engrenage.
Qu'est-ce qui a été le déclic ?
L'argent. Je fumais de plus en plus, donc qui veut dire plus en plus d'argent. Donc c'est ça qui a été le déclic.
Alors le pas a été facile à franchir ?
Oui, parce que j'étais décidée. Et finalement, c'était vraiment le bon moment. J'ai fait des patchs, changé des habitudes, faire autre chose au moment qu'on prenait une cigarette.
Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ?
Il y a eu un moment, j'ai eu un week-end, ça a été un peu plus compliqué, j'ai craqué. Mais je me suis vite remis dans le bon chemin. J'étais accompagnée par ma famille, par les personnes à côté. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi à arrêter, parce que je suis tombée sur les bonnes personnes.
Le mois sans tabac a donc débuté hier, le 1er novembre. Si vous souhaitez y prendre part, sachez que les consultations d'environ 45 minutes sont totalement prises en charge. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant. La semaine prochaine se déroulera la 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire. Premier employeur industriel en Nouvelle-Aquitaine avec plus de 29 000 salariés en 2022. L'agroalimentaire recrute et forme. Objectif de l'opération, promouvoir les métiers du secteur, souvent méconnus, et faire découvrir aux jeunes ainsi qu'aux demandeurs d'emploi les missions de l'agroalimentaire. En Deux-Sèvres, l'opération débutera lundi prochain de 9h à midi dans les murs de Pôle emploi à Bressuire pour un atelier immersion en réalité. réalité virtuelle dans les entreprises agroalimentaires. Mardi matin, c'est un atelier d'une demi-journée qui sera proposé pour tester concrètement son potentiel d'habilité dans l'industrie agroalimentaire. Le rendez-vous est donné à 9h à l'entreprise Galliance de Nueil-les-Aubiers. Mercredi, à partir de 10h, direction Marie-sur-Jolet à Hervaux pour une présentation de l'enseigne et des postes à pourvoir. L'affluence est importante dans les cimetières ces jours-ci. Les familles profitent en effet de la Toussaint pour fleurir les tombes de leurs proches et se recueillir auprès des défunts. Les cimetières ont le plus souvent été entretenus en conséquence, parfois par des bénévoles dans les petites communes. À Bressuire, ce sont les employés municipaux qui se chargent des 11 cimetières de la ville et des communes déléguées. Les cimetières qui s'y figurent dans les attributions de Yannick Charrier, adjoint en charge de l'urbanisme et de la voirie.
En soins particuliers, c'est le soin qu'on apporte toute l'année. On essaie de maintenir les allées au plus propre. Maintenant, on n'intervient pas sur tout ce qui est monument, puisque nous ne sommes pas propriétaires des monuments. Donc du coup, c'est aux familles d'intervenir sur leurs propres monuments, faire en sorte que ce soit propre.
Il y a moins de produits phytosanitaires, alors il faut s'adapter.
Alors effectivement, on a enherbé les allées maintenant, avec de la pelouse qui ne pousse pas très vite, mais malheureusement, il faut quand même faire de l'entretien. Alors parfois, on peut constater que c'est pas régulier, alors ça choque un petit peu, mais en règle générale, du fait qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, ça nous a compliqué la tâche. Alors effectivement, il faut être un peu moins... On revient à du naturel, mais en fait. Et je trouve que c'est nettement mieux quand même.
La nature reprend donc ses droits dans les cimetières de Bressuire qui appliquent une politique zéro phyto depuis plusieurs années maintenant. Succès total pour le 9e étrange week-end de Thouars. Fourbu mais souriant, les bénévoles de l'association Jeunes Thouarsais après cette édition 2023 d'Halloween. Une édition en hommage à leur animateur Lilian Lavaux, disparu l'été dernier. Le palais du frisson a donc fait le plein à l'orangerie du château, comme s'en réjouit le président Laurent Larcher. Au micro-colline de notre correspondant sur place, Dominique Hérault.
On est vraiment fiers d'avoir pu le réaliser malgré les circonstances. Cette année, on a fait 5 séances au lieu de 7 pour l'année dernière où on avait battu le record. On a fait un week-end à 3543 visiteurs. Vu la météo qui nous a pas aidé, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, mardi soir, jour d'Halloween, on a fait une séance à 1479 personnes et notre record était de un petit peu plus de 1500. Donc, on était vraiment à deux doigts de le battre.
L'association va prochainement se réunir pour fixer son calendrier d'animation, parmi lesquels les Thouarsais devraient retrouver la patinoire durant les vacances de Noël, l'étrange histoire au printemps 2024 et la Fiesta Color, reportage signé Dominique Hérault. L'activité sportive dans le cadre du trophée Coupe de France de basket chez les filles Saint-Jean de Thouars et s'est opposée à la chapelle Saint-Laurent. Ce sont les Chapelaises qui se sont qualifiées pour le prochain tour en remportant le match 82 à 54. Nueil-Aubiers était opposé au Pays Argentonais. Les Argentonaises se sont qualifiées en battant les Nueil-Aubraises 47 à 43. Chez les garçons, victoire de Nueil-Aubiers sur le parquet de Barbezieux 61 à 58. En revanche, est terminé pour Saint-Jean de Thouars qui a été battu par Étré 45-65. Le tirage au sort hier du 7e tour de la Coupe de France de football, Choret, qui évolue en N3, c'est le dernier club, je vous le rappelle, de Sévrier encore en lice, recevra Pau, une formation de Ligue 2. Choret, une nationale 1, ira jouer à Coulaines, une régionale 1. Le club des Herbiers, qui évolue en National 2, sera opposé à une formation de nationale, à savoir l'US Avranches. Les matchs auront lieu le week-end des 18 et 19 novembre prochains.